Judith Sunderland, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? Est-ce que vous en attendez déjà quelque chose?
Franchement, je soupçonne que nous entendrons beaucoup de platitudes et aussi une politique déjà poursuivie, guidée par l'intérêt de l'Union européenne de réduire le nombre de personnes et peu importe ce qu'elle fuit. On a bien sûr entendu plusieurs idées provenant de l'Élysée ces dernières semaines. Il y en a qui peuvent être des avancées en termes de droits et de responsabilités démontrées par, en ce cas-là, la France envers les migrants et les demandeurs d'asile. Mais il y a aussi plein d'idées problématiques.
Une des principales idées mises en avant par le président Macron, c'est celle de ces fameux hotspots en Afrique, c'est-à-dire des centres où l'administration française enregistrerait les demandeurs d'asile. Le premier pays qui avait été évoqué, c'est la Libye. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose de possible?
Dans un mot, non. L'idée de faire ça en Libye est franchement insensée. C'est fou. La situation sécuritaire est telle que les organisations internationales ne peuvent même pas s'installer. Les institutions de la même Union européenne opèrent depuis Tunis. Et souvenons-nous que la même France n'a pas d'ambassade en Libye. Les migrants et demandeurs d'asile en Libye sont soumis à des abus horribles. Il est impensable pour un pays de l'Union européenne de créer des nouveaux centres dans la Libye actuelle où ils respecteront les droits des personnes dans le même temps. C'est impensable.
Alors, l'Élysée avait fait un peu évoluer sa position au fil des semaines. Ces derniers temps, on parlait beaucoup plus de hotspots au Niger, voire au Tchad, et non plus en Libye. Est-ce que des centres d'examen dans ces deux pays, c'est quelque chose de plausible?
En théorie, l'examen des demandes d'asile dans des autres pays pourrait aider effectivement à éviter les déplacements dangereux et pourrait aider à faciliter l'accès à l'asile. Mais en pratique, l'histoire offre peu d'encouragement. Les États-Unis ont utilisé Guantanamo, l'Australie utilise encore Nauru et Manus, deux îles dans le Pacifique pour le même but, et ce sont des exemples plutôt de la façon de comment violer les droits. Il ne s'agit pas dans ces cas-là de convaincre les personnes de ne pas entreprendre des voyages dangereux, mais de leur contraindre à ne le pas faire. Parce que le seul moyen d'éviter cela, c'est d'enfermer les personnes. Et puis, l'histoire de l'immigration démontre que la fermeture d'une route migratoire entraîne l'ouverture d'une autre route, car les besoins sont encore là. Et souvent, les nouvelles routes sont encore plus dangereuses et plus coûteuses des routes qui ont été fermées. Une possibilité, c'est de dire, si vous voulez accéder à l'asile en France, vous devez aller dans ce centre-là au Niger ou au Tchad, vous devez rester là-bas jusqu'à la fin de votre procédure, et seulement si on vous accepte, vous pouvez venir en France. Et ça, c'est très, très problématique, et ça pourrait entraîner des gros abus. Une autre possibilité qui est beaucoup plus positive, c'est que la France puisse augmenter le nombre de réfugiés que la France réinstalle en France depuis Niger et Tchad, des réfugiés d'autres pays. Il y a aussi une autre possibilité, c'est que la France, comme des autres pays européens, ouvre beaucoup plus la possibilité d'accéder à des visas humanitaires dans les ambassades et les offices consulaires dans les pays tiers.
Les Italiens sont invités à ce sommet. Rome répète qu'il faut partager ce qu'elle appelle le fardeau de cette immigration. Comment l'Union européenne peut-elle partager ces vagues de migrants?
Il y a donc des règles européennes. Si vous arrivez en Italie, l'Italie doit prendre la responsabilité pour votre demande. Si vous allez depuis l'Italie vers l'Allemagne, l'Allemagne peut vous renvoyer vers l'Italie. Mais il faut faire plus pour partager la responsabilité. Les efforts pour faire ça devraient tenir compte des souhaits et des circonstances individuelles des demandeurs d'asile eux-mêmes, y compris leurs liens linguistiques, sociaux et familiaux. Beaucoup de personnes qui arrivent en Espagne ou en Italie ou en Grèce veulent aller ailleurs en Europe. parce que ils ont de la famille dans des autres pays, ils ont des liens sociaux. Donc, il y a plusieurs motifs qui leur aideraient à s'intégrer dans ces pays-là. Et moi, personnellement, je crois qu'à long terme, ce sont ce pays-là qui vont bénéficier des contributions économiques, sociales et culturelles de ces nouveaux arrivants.
Judy Sunderland, merci beaucoup.